Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 6, chapitre 9. Luther se recueille devant Dieu. Ce que Luther pense de la bulle. Une famille neutre. Luther sur la bulle. Contre la bulle de l'Antéchrist. Le pape défend de croire. Effet de la bulle. Le bûcher de Louvain. En effet, que signifiaient toutes ces résistances d'étudiants, de recteurs et de prêtres? Si la puissante main de Charles Quint s'unit à la puissante main du pape, n'écraseront-elles pas ses écoliers, ses grammairiens? Quelqu'un résistera-t-il au pouvoir du pontife, de la chrétienté et de l'empereur d'Occident? Le coup est frappé, Luther est retranché, l'évangile semble perdu. Le réformateur, en ce moment solennel, ne se dissimule pas la grandeur du danger où il se trouve. Il regarde en haut. Il s'apprête à recevoir, comme de la main du Seigneur même, le coup qui semble devoir l'anéantir. Son âme se recueille au pied du trône de Dieu. « Que va-t-il arriver ? » dit-il. « Je l'ignore, et je ne me soucie pas de le savoir, certain que celui qui siège dans le ciel a prévu de toute éternité le commencement, la continuation et la fin de cette affaire. » Où que ce soit que le coup frappe, je suis sans crainte. Une feuille d'un arbre ne tombe pas sans la volonté de notre Père, combien moins nous-mêmes. C'est peu de chose que de mourir pour la parole, puisque cette parole qui s'est incarnée pour nous est morte d'abord elle-même. Nous ressusciterons avec elle si nous mourons avec elle, et passant par où elle a passé, nous arriverons où elle est arrivée et demeurerons près d'elle pendant toute l'éternité. Quelquefois, cependant, Luther ne peut retenir le mépris que lui inspirent les manœuvres de ses ennemis. Nous retrouvons alors en lui ce mélange de sublime et d'ironie qui le caractérise. « Je ne sais rien d'Eck, dit-il, si ce n'est qu'il est arrivé avec une longue barbe, une longue bulle et une longue bourse, mais je me moquerai de sa bulle. » Le 3 octobre, il eut connaissance de la lettre papale. « La voilà enfin arrivée, cette bulle romaine, dit-il. Je la méprise et l'attaque comme impie, mensongère et digne d'Eck à tous égards. C'est Christ lui-même qui y est condamné. On n'y donne aucune raison, on m'y cite non pour m'entendre, mais pour que je chante palinodie. Je la traiterai comme fausse, bien que je la croie véritable. Oh, si Charles Quint était un homme, et si pour l'amour de Christ il attaquait ses démons. Je me réjouis d'avoir à supporter quelques mots pour la meilleure des causes. Je sens déjà plus de liberté dans mon cœur, car je sais enfin que le pape est l'Antéchrist et que son siège est celui de Satan même. Ce n'était pas dans la Saxe seulement que les foudres de Rome avaient jeté l'alarme. Une tranquille famille de la Souabe, une famille neutre, vit sa paix tout à coup troublée. Billibald Pirckheimer de Nuremberg, l'un des hommes les plus distingués de son siècle, privé de bonheur de son épouse bien-aimée, Crescentia, était unie par la plus étroite affection à ses deux jeunes sœurs, Caritas, abbesse de Sainte-Claire, et Clara, nonne du même couvent. Ces deux pieuses filles servaient Dieu dans la solitude et partageaient leur temps entre l'étude, le soin des pauvres et les pensées de l'éternité. Billibald, homme d'État, se délassait des affaires publiques par la correspondance qu'il entretenait avec elles. Elles étaient savantes, lisaient le latin et étudiaient les pères. Mais il n'y avait rien qu'elles aimassent autant que la Sainte Écriture. Elles n'eurent jamais d'autre maître que leur frère. Les lettres de Caritas sont empreintes de délicatesse et d'amabilité. Pleines d'une tendre affection pour Billibald, elles redoutaient pour lui le moindre danger. Pirckheimer, pour rassurer cette âme craintive, écrivit un dialogue entre Caritas et Veritas, charité et vérité, où Veritas cherche à affermir Caritas. Rien de plus touchant et de plus propre à consoler un cœur tendre et angoissé. Quel dut être l'effroi de Caritas quand le bruit se répandit que le nom de Billibald était affiché sous la bulle du pape aux portes des cathédrales à côté de celui de Luther. En effet, Eck, poussé par une aveugle fureur, avait associé à Luther six des hommes les plus distingués de l'Allemagne, Karlstadt, Feldkirchen, Egranus, qui s'en soucièrent fort peu, Adelmann, Pirkheimer et son ami Spengler, que les fonctions publiques dont ils étaient revêtus rendaient particulièrement sensibles à cette injure. L'agitation fut grande dans le couvent de Sainte-Claire. Comment supporter la honte de Billibald ? Rien n'affecte plus des parents que de telles épreuves. Le danger était en effet pressant. En vain la ville de Nuremberg, l'évêque de Bamberg, les ducs même de Bavière intervinrent-ils en faveur de Spengler et de Pirkheimer. Ces hommes généreux durent s'humilier devant le docteur Eck, qui leur fit sentir toute l'importance d'un proto-notaire romain et les obligea à écrire au pape une lettre dans laquelle ils déclarèrent n'adhérer aux doctrines de Luther qu'en tant qu'elles étaient conformes à la foi chrétienne. En même temps, Adelmann, avec lequel Eck s'était une fois battu en se levant de table à la suite d'une discussion sur la grande question qui occupait tous les esprits, dut comparaître devant l'évêque d'Augsbourg et se laver par serment de toute participation à l'hérésie luthérienne. Cependant, la vengeance et la colère avaient été pour Eck de mauvais conseillers. Les noms de Billibald et de ses amis nuisirent à la bulle. Le caractère de ces hommes éminents, leurs relations nombreuses rendirent l'irritation plus générale. Luther feignit d'abord de douter de l'authenticité de la bulle. « J'apprends, dit-il dans le premier écrit qu'il publia, qu'Eck a apporté de Rome une nouvelle bulle qui lui ressemble si fort qu'on pourrait la nommer docteur Eck, tant elle est pleine de fausseté et d'erreurs. Il donne à croire qu'elle est l'ouvrage du pape, tandis que ce n'est qu'une œuvre de mensonge. » Après avoir exposé les fondements de ses doutes, Luther finit en disant « Je veux voir de mes yeux le plomb, le sceau, les cordons, la clause, la signature de la bulle, tout en un mot, ou ne pas estimer l'épaisseur d'un cheveu toutes ces criailleries. » Mais personne ne doutait, pas même Luther, que la bulle ne fût du pape. L'Allemagne attendait ce que le réformateur allait faire. Demeurerait-il ferme ? Les regards étaient fixés sur Wittenberg. Luther ne tint pas longtemps ses contemporains en suspens. Il répondit par une décharge foudroyante en publiant le 4 novembre 1520 son écrit « Contre la bulle de l'Antéchrist ». « Que d'erreurs, que de fraudes, dit-il, se sont glissées parmi le pauvre peuple sous le manteau de l'Église et de la prétendue infaillibilité du pape. Que d'âmes ainsi perdues, que de sang répandu, que de meurtres commis, que de royaumes ruinés. Je sais fort bien distinguer, dit-il plus loin, avec ironie, entre art et malice, et j'estime fort peu une malice sans art. Brûler des livres est chose si facile que des enfants même peuvent le faire. À combien plus forte raison le Saint-Père et ses docteurs. Il leur conviendrait de montrer plus d'habileté qu'il n'en faut pour brûler des livres. D'ailleurs, qu'on détruise mes ouvrages. Je ne désire rien davantage, car je n'ai voulu que conduire des âmes à la Bible pour qu'on laissât ensuite tous mes écrits. Grand Dieu, si nous avions la connaissance de l'Écriture, quel besoin serait-il de mes livres ? Je suis libre, par la grâce de Dieu, et des bulles ne me consolent ni ne m'épouvantent. Ma force et ma consolation sont en un lieu où ni les hommes ni les diables ne sauraient les atteindre. » La dixième proposition de Luther, condamnée par le pape, était ainsi conçue. « Les péchés ne sont pardonnés à aucun homme, à moins qu'il ne croie qu'ils lui sont pardonnés quand le prêtre l'absout. » Le pape, en la condamnant, niait que la foi fût nécessaire dans le sacrement. « Ils prétendent, s'écrit Luther, que nous ne devons pas croire que les péchés nous sont pardonnés quand nous sommes absous par le prêtre. Et que devons-nous donc, frères ? Écoutez maintenant, ô chrétiens, une nouvelle venue de Rome. Condamnation est prononcée contre cet article de foi que nous professons en disant « Je crois au Saint-Esprit, l'Église chrétienne et la rémission des péchés. » Si je savais que le pape eût vraiment donné à Rome cette bulle, et il n'en doutait pas, et qu'elle n'eût pas été inventée par Eck, l'archimenteur, je voudrais crier à tous les chrétiens qu'ils doivent tenir le pape pour le véritable antéchrist dont parle l'Écriture. Et s'il ne voulait cesser de proscrire publiquement la foi d'Église, alors que le glaive temporel même lui résiste plutôt qu'au Turc, car le Turc permet de croire, mais le pape le défend. » Tandis que Luther parlait avec tant de force, ses dangers augmentaient. Le plan de ses ennemis était de le faire chasser de Wittenberg. Si Luther et Wittenberg sont séparés, Luther et Wittenberg seront perdus. un seul coup débarrasserait ainsi Rome et du docteur et de l'université hérétique. Le duc Georges, l'évêque de Merseburg, les théologiens de Leipzig travaillaient sous main à cette œuvre. Luther dit en l'apprenant « Je remets cette affaire entre les mains de Dieu ». Ces menées n'étaient pas sans effet. Adrien, professeur d'hébreu à Wittenberg, se tourna tout à coup contre le docteur. Il fallait être bien ferme dans la foi pour soutenir le coup que portait la bulle de Rome. Il est des caractères qui ne vont avec la vérité que jusqu'à un certain point. Tel fut Adrien. Épouvanté par cette condamnation, il quitta Wittenberg pour se rendre à Leipzig auprès du docteur Eck. La bulle commençait à s'exécuter. La parole du pontife de la chrétienté n'était pas vaine. Depuis longtemps, le feu et le glaive avaient enseigné à s'y soumettre. Les bûchers se dressaient à sa voix, tout annonçait qu'une terrible catastrophe allait mettre fin à la révolte audacieuse du moine Augustin. En octobre 1520, les livres de Luther furent enlevés à Ingolstadt de toutes les boutiques des libraires et mis sous scellés. L'électeur archevêque de Mayence, tout modéré qu'il était, dut bannir de sa cour Ulrich de Hutten et jeter en prison son imprimeur. Les nonces du pape avaient assiégé le jeune empereur. Charles déclara qu'il protégerait l'ancienne religion, et l'on vit s'élever dans quelques-unes de ses possessions héréditaires des échafauds où les écrits de l'hérétique devaient être réduits en cendres. Des princes de l'Église et des conseillers assistèrent à ces autodafés. Eck se comportait avec insolence, menaçant les savants et les grands et remplissant tout de sa fumée, dit Érasme. Le pape, disait-il, qui a jeté bas tant de comtes et de ducs, saura bien mettre à la raison trois misérables grammairiens. Il peut dire à l'empereur Charles lui-même « Tu n'es qu'un savetier ». En même temps, son collègue Aléandre, prenant le visage de mauvaise humeur d'un maître d'école qui menace de la verge ses écoliers, disait avec Érasme « Nous saurons bien trouver ce duc Frédéric, nous en ferons façon ». Aléandre était tout enflé de ses succès. À entendre l'orgueilleux nonce, on eût dit que le bûcher qui consuma à Mayence les livres de Luther était le commencement de la fin. « Ces flammes, se disait-on à Rome, porteront partout l'épouvante ». Il en fut ainsi pour beaucoup d'esprits superstitieux et timides, mais ailleurs ce fut le contraire. « Sus, vous tous qui aimez la vérité de Christ, portez un placard à Erfurt, défendez sa parole, jetez-vous sur ses excommunications sataniques affichées sur nos murs et les déchirez en mille pièces. » Même dans les états héréditaires de Charles, les seuls où l'on osa exécuter la bulle, le peuple et quelquefois les grands ne répondaient souvent à ces démonstrations pontificales que par des rires ou des marques d'indignation. Luther, disaient les docteurs de Louvain en se présentant devant Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, Luther renverse la foi chrétienne. « Qui est ce Luther ?» demanda la princesse. « Un moine ignorant. »« Eh bien, répondit-elle, vous qui êtes savant et en si grand nombre, écrivez contre lui. Le monde croira plutôt beaucoup de savants qu'un homme isolé et sans science. » Les docteurs de Louvain préférèrent une méthode plus facile. Ils firent élever à leurs frais un vaste bûcher. Une grande multitude couvrait la place de l'exécution. On voyait des étudiants, des bourgeois, traverser en toute hâte la foule, portant sous les bras de gros volumes qu'ils jetaient dans les flammes. Leur zèle édifiait les moines et les docteurs. Mais la ruse fut plus tard découverte. C'étaient les Sermones Discipuli Tartarete et d'autres livres scolastiques et papistes qu'on avait jetés au feu au lieu des écrits de Luther. Le comte de Nassau, vice-roi de Hollande, dit aux dominicains qui sollicitaient la faveur de brûler les livres du docteur « Allez et prêchez l'évangile aussi purement que Luther et vous n'aurez à vous plaindre de personne ». Comme on parlait du réformateur à un festin où se trouvaient les principaux princes de l'Empire, le seigneur de Ravenstein dit tout haut « Dans l'espace de 4 siècles, un seul homme chrétien a osé lever la tête et le pape veut le mettre à mort. » Luther, ayant le sentiment de la puissance de sa cause, demeurait tranquille au milieu du tumulte que la bulle avait soulevé. « Si vous ne me pressiez si vivement, disait-il à Spalatin, je me tairai, sachant bien que c'est par le conseil et le pouvoir de Dieu que cette œuvre doit s'accomplir. » Le timide voulait que l'on parlât et le fort voulait se taire. C'est que Luther discernait un pouvoir qui échappait au regard de son ami. « Ayez bonne espérance, continue le réformateur. C'est Christ qui a commencé ces choses et c'est lui qui les accomplira, soit que je sois mis en fuite ou que je sois mis à mort. Jésus-Christ est ici présent, et celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Livre 6, chapitre 10. Appel de Luther à un concile universel. Lutte corps à corps. La bulle brûlée par Luther. Signification de cet acte hardi. Luther dans l'Académie. Luther contre le pape. Nouvel écrit de Mélenchon. Comment Luther rassure ses amis. Progrès de la lutte. Opinion de Mélenchon sur les timides. Écrit de Luther sur la Bible. Doctrine de la grâce. Mais le devoir l'obligeait à parler pour manifester la vérité au monde. Rome a frappé, il fera connaître comment il accepte ses coups. Le pape l'a mis au banc de l'Église, il le mettra lui-même au banc de la chrétienté. La parole du pontife a été jusqu'à cette heure toute puissante. Il opposera parole à parole et le monde connaîtra quelle est celle qui a le plus de pouvoir. « Je veux, dit-il, mettre ma conscience en repos. » en révélant aux hommes le danger où ils se trouvent. Et en même temps, il se prépare à renouveler son appel à un concile universel. Un appel du pape à un concile était un crime. C'est donc par un nouvel attentat envers la puissance pontificale que Luther prétend se justifier de ceux qui ont précédé. Le 17 novembre, un notaire et 5 témoins, parmi lesquels se trouvait Crucigère, se réunissent à 10h du matin dans l'une des salles du couvent des Augustins où habitait le docteur. Là, l'officier public, Sartor Deisleben, se mettant aussitôt en devoir de rédiger la minute de sa protestation, le réformateur dit en présence de ses témoins d'un ton solennel « Attendu qu'un concile général de l'Église chrétienne est au-dessus du pape, surtout en ce qui concerne la foi, attendu que la puissance du pape est non au-dessus mais au-dessous de l'Écriture et qu'il n'a pas le droit d'égorger les brebis de Christ et de les jeter à la gueule du loup, moi, Martin Luther, Augustin, docteur de la Sainte Écriture à Wittenberg, j'en appelle par cet écrit, pour moi et pour ceux qui sont ou seront avec moi, du très saint pape Léon à un futur concile universel et chrétien. J'en appelle du dit pape Léon, premièrement comme d'un juge inique, téméraire, tyrannique, qui me condamne sans m'entendre et sans en exposer les motifs. Secondement, comme d'un hérétique et d'un apostat égaré, endurci, condamné par les saintes Écritures, qui m'ordonnent de nier que la foi chrétienne soit nécessaire dans l'usage des sacrements. Troisièmement, comme d'un ennemi, d'un antéchrist, d'un adversaire, d'un tyran de la sainte Écriture, qui ose apposer ses propres paroles à toutes les paroles de Dieu. Quatrièmement, comme d'un contempteur, d'un calomniateur, d'un blasphémateur de la Sainte Église chrétienne et d'un concile libre qui prétend qu'un concile n'est rien en lui-même. C'est pourquoi je supplie très humblement les sérénissimes, très illustres, excellents, généreux, nobles, forts, sages et prudents seigneurs, Charles, empereur romain, les électeurs, princes, comtes, barons, chevaliers, gentilshommes, conseillers, villes et communautés de toute la nation allemande, d'adhérer à ma protestation et de résister avec moi à la conduite antichrétienne du pape, pour la gloire de Dieu, pour la défense de l'Église et de la doctrine chrétienne et pour le maintien des conciles libres de la chrétienté. Et Christ, notre Seigneur, les récompensera richement par sa grâce éternelle. Mais si l'année qui méprise ma prière et qui continue à obéir au pape, à cet homme impie plutôt qu'à Dieu, j'en repousse par la présente la responsabilité, ayant fidèlement averti leur conscience, et je les abandonne au jugement suprême de Dieu, ainsi que le pape et tous ses adhérents. Tel est l'acte de divorce de Luther. C'est ainsi qu'il répond à la bulle du pontife. Il y a un grand sérieux dans cette déclaration. Les accusations qu'il porte contre le pape sont d'une haute gravité, et ce n'est pas à la légère qu'il les a faites. Cette protestation fut répandue dans toute l'Allemagne et envoyée dans la plupart des cours de la chrétienté. Luther avait cependant en réserve une démarche plus hardie encore, bien que celle qu'il venait de faire parût le comble de l'audace. Il ne voulait rester en rien en arrière de Rome. Le moine de Wittenberg fera tout ce que le souverain pontife ose faire. Il prononce parole contre parole, il élève bûcher contre bûcher. Le fils de Médicis et le fils du mineur de Mansfeld sont descendus dans la lice et dans cette lutte corps à corps qui ébranle le monde, l'un ne porte pas un coup que l'autre ne le rende. Le 10 décembre, on pouvait lire une affiche sur les murs de l'université de Wittenberg. Elle invitait les professeurs et les étudiants à se trouver à 9h du matin à la porte orientale près de la Sainte-Croix. Un grand nombre de docteurs et de disciples se réunirent et Luther, marchant à leur tête, conduisit le cortège au lieu indiqué. Que de bûchers Rome a allumé dans le cours des siècles. Luther veut faire une application meilleure du grand principe romain. Ce n'est que de quelques vieux papiers qu'il s'agit de se défaire, et le feu, pense-t-il, est fait pour cela. Un échafaud était préparé. Un des plus anciens maîtres S.A.R. y mit le feu. Au moment où les flammes s'élevèrent, on vit le redoutable Augustin, revêtu de son froc, s'approcher du bûcher, tenant en main le droit canon, les décrétales, les clémentines, les extravagantes des papes, quelques écrits d'Eck et d'Emser et la bulle du pape. Les décrétales ayant d'abord été consumées, Luther éleva la bulle et dit « Puisque tu as contristé le sein du Seigneur, que le feu éternel te contriste et te consume. » Et il la jeta aux flammes. Jamais guerre ne fut déclarée avec plus d'énergie et de résolution. Alors Luther reprit tranquillement le chemin de la ville et la foule des docteurs, des professeurs, des étudiants, faisant éclater son approbation, rentra avec lui dans Wittenberg. Les décrétales, disait Luther, ressemblent à un corps dont la tête est douce comme une vierge, dont les membres sont pleins de violence comme un lion et dont la queue est remplie de ruses comme un serpent. Dans toutes les lois des papes, il n'y a pas une parole qui nous apprenne qui est Jésus-Christ. Mes ennemis, dit-il encore, ont pu, en brûlant mes livres, nuire à la vérité dans l'esprit du commun peuple et perdre des âmes. C'est pourquoi j'ai consumé leurs livres à mon tour. Une lutte sérieuse vient de s'ouvrir. Jusqu'ici, je n'ai fait que badiner avec le pape. J'ai commencé cette œuvre au nom de Dieu. Elle se finira sans moi et par sa puissance. S'ils osent brûler mes livres, où il se trouve plus d'évangiles pour parler sans vanterie que dans tous les livres du pape, je puis à plus forte raison brûler les leurs où il n'y a rien de bon. Si Luther avait ainsi commencé la Réformation, une telle démarche eût pu sans doute avoir des suites funestes. Le fanatisme eût pu s'en emparer et jeter l'Église dans une voie de désordre et de violence. Mais c'était en exposant avec gravité les enseignements de l'Écriture que le réformateur avait préludé à son œuvre. Les fondements avaient été posés avec sagesse. Maintenant, un coup de force comme celui qu'il venait de porter pouvait non seulement être sans inconvénient, mais même accélérer le moment où la chrétienté verrait tomber ses chaînes. Luther déclarait ainsi solennellement qu'il se séparait du pape et de son Église. Après sa lettre à Léon X, cela pouvait lui paraître nécessaire. Il acceptait l'excommunication que Rome avait prononcée. Il faisait savoir au monde chrétien que maintenant il y avait guerre à mort entre lui et le pape. Il brûlait ses navires sur le rivage et s'imposait la nécessité d'avancer et de combattre. Luther était rentré dans Wittenberg. Le lendemain, la salle académique était plus remplie que de coutume. Les esprits étaient émus. Il y avait dans cette assemblée quelque chose de solennel. On s'attendait à une allocution du docteur. Il commenta les psaumes. C'était un travail qu'il avait commencé au mois de mars de l'année précédente. Puis, ayant fini son explication, il s'arrêta quelques instants et dit enfin avec force « Tenez-vous en garde contre les lois et les statuts du pape. » J'ai brûlé les décrétales, mais ce n'est qu'un jeu d'enfant. Il serait temps, et plus que temps, que l'on brûlât le pape, c'est-à-dire, reprit-il aussitôt, le siège de Rome avec toutes ses doctrines et ses abominations. Prenant ensuite un ton plus solennel, « Si vous ne combattez pas de tout votre cœur, le gouvernement impie du pape, dit-il, vous ne pouvez être sauvés. Quiconque se complaît dans la religion et dans le culte de la papauté sera éternellement perdu dans la vie qui est à venir. » « Si on la rejette, ajouta-t-il, il faut s'attendre à courir toute espèce de danger et même à perdre la vie. Mais il vaut mieux encore s'exposer à de tels périls dans ce monde que se taire. Tant que je vivrai, Je dénoncerai à mes frères la plaie et la peste de Babylone, de peur que plusieurs qui sont avec nous ne retombent avec les autres dans l'abîme de l'enfer. » On peut à peine imaginer l'effet que produisit sur l'assemblée ce discours dont l'énergie nous étonne. Aucun de nous, ajoute le candide étudiant qui nous l'a conservé, à moins qu'il ne soit une bûche sans intelligence, comme le sont tous les papistes, dit-il en parenthèse, aucun de nous ne doute que ce soit là la pure vérité. Il est évident à tous les fidèles que le docteur Luther est un ange du Dieu vivant, appelé à paître de la parole de Dieu les brebis de Christ si longtemps égarées. Ce discours et l'acte même qui le couronna signalent une époque importante de la Réformation. La dispute de Leipzig avait détaché intérieurement Luther du pape, mais le moment où il brûla la bulle fut celui où il déclara de la manière la plus expresse son entière séparation de l'évêque de Rome et de son Église et son attachement à l'Église universelle telle qu'elle a été fondée par les apôtres de Jésus-Christ. Il alluma vers la porte orientale un incendie qui dure depuis 3 siècles. Le pape, disait-il, a 3 couronnes. Voici pourquoi. La première est contre Dieu, car il condamne la religion. La seconde contre l'empereur, car il condamne la puissance séculière. La troisième contre la société, car il condamne le mariage. Quand on lui reprochait de s'élever trop violemment contre le papisme, « Ah !» répondait-il, « je ne voudrais pouvoir ne faire entendre contre lui que des coups de tonnerre et que chacune de mes paroles fût un carreau de la foudre. » Cette fermeté se communiquait aux amis et aux compatriotes de Luther. Tout un peuple se ralliait à lui. L'université de Wittenberg, surtout, se rattachait toujours plus à ce héros auquel elle devait son importance et sa gloire. Karlstadt éleva alors la voix contre le lion furieux de Florence qui déchirait les lois divines et humaines et foulait aux pieds les principes de l'éternelle vérité. Mélenchon aussi adressa vers cette époque aux États de l'Empire un écrit où l'on retrouve l'élégance et la sagesse qui distinguent cet homme aimable. Il répondait à un livre attribué à Emser, mais publié sous le nom du théologien romain Radinus. Jamais Luther lui-même ne parla avec plus de force, et cependant il y a dans les paroles de Mélenchon une grâce qui leur fait trouver accès dans les cœurs. Après avoir montré par des passages de l'Écriture que le pape n'est pas supérieur aux autres évêques, « Qu'est-ce qui empêche, dit-il aux États de l'Empire, que nous ôtions au pape le droit que nous lui avons donné ? Peu importe à Luther que nos richesses, c'est-à-dire que les trésors de l'Europe, soient envoyés à Rome, mais ce qui cause sa douleur et la nôtre, c'est que les lois des pontifes et le règne du pape non seulement mettent en danger les âmes des hommes, mais les perdent entièrement. Chacun peut juger par lui-même s'il lui convient ou non de donner son argent pour entretenir le luxe romain, mais juger des choses de la religion et des mystères sacrés n'est pas à la portée du vulgaire. C'est donc ici que Luther implore votre foi, votre zèle, et que tous les hommes pieux l'implorent avec lui, les uns à haute voix, les autres par leurs gémissements et leurs soupirs. Souvenez-vous que vous êtes chrétien, prince du peuple chrétien, et arrachez les tristes débris du christianisme à la tyrannie de l'Antéchrist. Ils vous trompent, ceux qui prétendent que vous n'avez aucune autorité contre les prêtres. Ce même esprit qui anima Jéhu contre les prêtres de Baal vous presse, par cet antique exemple, d'abolir la superstition romaine, bien plus horrible que l'idolâtrie de Baal. Ainsi parlait au prince de l'Allemagne le doux Mélenchon. Quelques cris d'effroi se firent entendre parmi les amis de la Réformation. Des esprits timides, enclins à des ménagements extrêmes, Staupitz en particulier, exprimèrent de vives angoisses. « Toute cette affaire n'a été jusqu'à présent qu'un jeu, lui dit Luther. Vous l'avez dit vous-même, si Dieu ne fait ces choses, il est impossible qu'elles se fassent. Le tumulte devient de plus en plus tumultueux, et je ne pense pas qu'il puisse s'apaiser si ce n'est au dernier jour. » C'est ainsi que Luther rassurait les esprits alarmés. Depuis 3 siècles, le tumulte ne s'est pas apaisé. La papauté, continue-t-il, n'est plus maintenant ce qu'elle était hier et avant-hier. Qu'elle excommunie et brûle mes écrits, qu'elle me tue, elle n'arrêtera pas ce qui avance. Quelque chose de prodigieux est à la porte. J'ai brûlé la bulle, d'abord avec un grand tremblement, mais maintenant j'en éprouve plus de joie que d'aucune action que j'ai faite dans toute ma vie. On s'arrête involontairement et l'on se plaît à lire avec la grande âme de Luther tout l'avenir qui se prépare. « Ô mon père, dit-il à Staupitz en terminant, Priez pour la parole de Dieu et pour moi. Je suis enlevé par ses flots et comme tournoyé par leurs tourbillons. » Ainsi le combat se déclare de tous côtés. Les combattants ont jeté les fourreaux de leurs épées. La parole de Dieu a repris ses droits et dépose celui qui avait pris la place de Dieu même. Toute la société s'ébranle. Dans tous les temps, il ne manque pas d'hommes égoïstes qui voudraient laisser dormir la société humaine dans l'erreur et dans la corruption. Mais les hommes sages, fussent-ils même timides, pensent autrement. « Nous savons bien, dit le doux et modéré Mélenchon, que les hommes d'État ont horreur de toute innovation. Et il faut avouer que dans cette triste confusion qui s'appelle la vie humaine, les discordes, et même celles qui proviennent des causes les plus justes, sont toujours entachées de quelque mal. Cependant, il est nécessaire que la parole et le commandement de Dieu passent dans l'Église avant toutes les choses humaines. Dieu menace de la colère éternelle ceux qui s'efforcent d'anéantir la vérité. C'est pourquoi c'était un devoir pour Luther, un devoir chrétien et auquel il ne pouvait se soustraire, surtout puisqu'il était docteur de l'Église de Dieu, de reprendre les erreurs pernicieuses que des hommes déréglés répandaient avec une inconcevable effronterie. Si la discorde enfante beaucoup de maux, ainsi que je le vois à ma grande douleur, ajoute le sage Philippe, c'est la faute de ceux qui, au commencement, ont répandu des erreurs et de ceux qui, pleins d'une haine diabolique, cherchent à présent à les maintenir. Mais tous ne pensaient pas de même. On accabla Luther de reproches. L'orage fondit sur lui de toutes parts. « Il est tout seul, disaient les uns. Il enseigne des choses nouvelles, disaient les autres. » « Qui sait, répondit Luther dans le sentiment de la vocation qui lui était adressée d'en haut, qui sait si ce n'est pas Dieu qui m'a choisi et appelé, et s'ils ne doivent pas craindre, en me méprisant, de mépriser Dieu lui-même. Moïse était seul à la sortie d'Égypte, Élie seul au temps du roi Achab, Ésaïe seul à Jérusalem, Ézéchiel seul à Babylone. Dieu n'a jamais choisi pour prophète ni le souverain sacrificateur, ni quelque autre grand personnage. Mais ordinairement, il a choisi des personnes basses et méprisées, une fois même un berger, Amos. En tout temps, les saints ont dû reprendre les grands, les rois, les princes, les prêtres, les savants, au péril de leur vie. Et sous le Nouveau Testament, n'en a-t-il pas été de même ? Ambroise était seul de son temps. Après lui, Jérôme fut seul. Plus tard encore, Augustin fut seul. Je ne dis pas que je sois un prophète, mais je dis qu'ils doivent craindre précisément parce que je suis seul et qu'ils sont plusieurs. Ce dont je suis sûr, c'est que la parole de Dieu est avec moi et qu'elle n'est point avec eux. On dit aussi, continue-t-il, que je mets en avant des choses nouvelles et qu'il est impossible de croire que tous les autres docteurs se soient si longtemps trompés. Non, je ne prêche pas de choses nouvelles, mais je dis que toutes les doctrines chrétiennes ont disparu chez ceux-mêmes qui eussent dû les conserver, savoir les savants et les évêques. Je ne doute pas cependant que la vérité ne soit demeurée dans quelque cœur, ne fût-ce même que chez des enfants au berceau. De pauvres paysans, de simples enfants comprennent mieux maintenant Jésus-Christ que le pape, les évêques et les docteurs. On m'accuse de rejeter les saints docteurs de l'Église. Je ne les rejette point, mais puisque tous ces docteurs cherchent à prouver leurs écrits par la Sainte Écriture, il faut qu'elles soient plus claires et plus certaines qu'ils ne le sont. Qui pensera à prouver un discours obscur par un discours plus obscur encore ? Ainsi donc, la nécessité nous contraint à recourir à la Bible, comme le font tous les docteurs, et à lui demander de prononcer sur leurs écrits, car la Bible seule est Seigneur et Maître. Mais, dit-on, des hommes puissants le poursuivent. Et n'est-il pas clair, d'après l'Écriture, que les persécuteurs ont ordinairement tort et les persécutés raison, que le grand nombre a été toujours avec le mensonge et le petit nombre avec la vérité a fait de tout temps rumeur. Luther passe ensuite en revue les propositions condamnées dans la bulle comme hérétiques, et il en démontre la vérité par des preuves tirées de l'Écriture sainte. Avec quelle force, en particulier, ne soutient-il pas la doctrine de la grâce ? Quoi, dit-il, la nature pourra, avant et sans la grâce, haïr le péché, l'éviter, s'en repentir, tandis que même quand la grâce est venue, cette nature aime le péché, le recherche, le désire et ne cesse de combattre la grâce et d'être irritée contre elle, ce dont tous les saints gémissent continuellement. C'est comme si l'on disait qu'un grand arbre que je ne puis fléchir en y employant toutes mes forces fléchit de lui-même quand je l'abandonne ou qu'un torrent que les digues et les murailles ne peuvent arrêter s'arrête aussitôt quand je le laisse à lui-même. Non, ce n'est pas en considérant le péché et ses suites que l'on parvient à la repentance, mais c'est en contemplant Jésus-Christ, ses plaies et son immense charité. Il faut que la connaissance du péché provienne de la repentance et non la repentance de la connaissance du péché. La connaissance est le fruit, la repentance est l'arbre. Chez nous, les fruits croissent sur les arbres, mais il paraît que dans les états du Saint-Père, les arbres croissent sur les fruits. Le courageux docteur, quoiqu'il proteste, rétracte cependant quelques-unes de ses propositions. L'étonnement cessera quand on saura la manière dont il le fait. Après avoir cité les quatre propositions sur les indulgences condamnées par la bulle, il ajoute simplement « À l'honneur de la sainte et savante bulle, je rétracte tout ce que j'ai jamais enseigné touchant les indulgences. Si c'est justement que l'on a brûlé mes livres, cela est certainement arrivé parce que j'y ai accordé quelque chose au pape dans la doctrine des indulgences. C'est pourquoi je les condamne moi-même au feu. » Il se rétracte aussi quant à Jean Housse. Je dis maintenant, non pas quelques articles, mais tous les articles de Jean Housse sont tout à fait chrétiens. Le pape, en condamnant Housse, a condamné l'Évangile. J'ai fait 5 fois plus que lui, et pourtant je crains fort de n'avoir pas fait assez. Housse dit seulement qu'un méchant pape n'est pas un membre de la chrétienté. Mais moi, si aujourd'hui Saint-Pierre même siégeait à Rome, je nierais qu'il fût pape par l'institution de Dieu. »